Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans De Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Dans le complot contre l'Amérique, Philip Roth imaginait ce que seraient devenus les États-Unis si Charles Lindbergh, partisan d'un rapprochement avec le régime hitlérien, était devenu le président de ce pays au début de la Seconde Guerre mondiale. Un exercice d'uchronie vertigineux. Quel monde pouvait naître d'un tel choc? Eh bien, c'était à peu de choses près le genre de questions qui se posent désormais avec la victoire de Donald Trump. Alors bien sûr, il y aura tous ceux qui diront l'avoir vu venir de loin, mais Trump, président des États-Unis, soyons honnêtes, hier soir encore, on n'aurait pas misé le moindre dollar sur sa victoire. La surprise est d'autant plus énorme qu'elle ouvre une période de grande incertitude. Cela dit, rien ne se passe jamais comme prévu. 8 ans plus tôt, le monde avait tout misé sur Barack Obama. L'espoir de relations internationales enfin apaisé après 2 mandats de George W. Bush, Obama ne pouvait que décevoir. Alors avec Trump à la Maison-Blanche, il y a peut-être au moins une raison de se réjouir. Il ne peut surprendre qu'agréablement, en étant moins pire que ce qu'il a donné à voir et à entendre pendant cette interminable campagne. Bon, Trump a gagné, c'est donc que Clinton a perdu. Elle ne sera pas la première femme à présider les États-Unis, mais elle n'est pas seule à porter la défaite. Alors, qui sort perdant de la présidentielle américaine? C'est la question que nous posons ce soir à 3 invités. Amy Green, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue chargée de mission à Sciences Po Paris. Vous avez publié chez Autrement en 2012 « L'Amérique après Obama ». Et vous venez de participer à cet ouvrage collectif « Les États-Unis dans le monde », ouvrage publié aux éditions du CNRS. Pour discuter avec vous, Anne Desine, bonsoir.
Bonsoir.
Juriste et politologue, professeur émérite à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Votre dernier ouvrage, c'était l'an dernier aux éditions Dalloz, « La Cour suprême des États-Unis, droit, politique et démocratie ». La Cour suprême, un des contre-pouvoirs importants. On verra si c'est un contre-pouvoir qui sort perdant de ce scrutin. Et puis, troisième invité, Philippe Golub, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur de relations internationales à l'Université américaine de Paris. Une autre histoire de la puissance américaine, c'est votre ouvrage que vous aviez publié au Seuil. Et c'était en 2011. Alors ce soir, donc, la question qu'on se pose, c'est qui sort perdant? Ils sont plusieurs à sortir perdant de cette présidentielle américaine, à commencer, bien entendu, par la candidate démocrate Hillary Clinton. Amy Green, est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de sa carrière politique?
C'est la fin peut-être de sa carrière publique dans le service public aux États-Unis, mais je pense qu'elle est très très loin de se retirer de la sphère publique. Elle a porté notamment dans sa campagne, et puis depuis le début de sa carrière, pardon, la cause des femmes, l'égalité entre femmes et hommes, les droits des enfants. Donc on peut peut-être anticiper qu'elle va continuer ce travail-là, peut-être qu'elle va retravailler avec la Fondation Clinton. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut envisager pour elle, mais je pense que c'est quelqu'un de très engagé, c'est quelqu'un qui vient de prononcer dans son discours qu'il ne faut jamais cesser de se battre pour la chose qu'on pense la bonne cause. Donc je pense qu'aujourd'hui, elle va prendre du temps et elle va se réengager prochainement.
Est-ce qu'on pourrait l'imaginer comme chef de l'opposition à Trump, Anne Desine?
Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un bon petit soldat dans son discours d'abord à la concéder très tôt, de façon à lever l'ambiguïté, dès cette nuit. Et là, dans son discours, comme j'étais dans un taxi, je n'ai pas pu tout entendre, mais grosso modo, elle a remercié ses troupes et elle a appelé à l'unité, à la réconciliation. Elle a même fait une petite offre de service à Trump en disant que si elle pouvait être utile, elle le ferait volontiers. Donc je pense tout à fait, comme Amy, qu'elle va travailler avec la Fondation. Là, ce n'est pas un perdant, mais c'est un vainqueur, c'est la Fondation. Parce que la Fondation Clinton, si elle avait été élue président, il fallait que la famille Clinton cesse les liens avec la Fondation. Il y avait trop de problèmes de conflits d'intérêts, etc. Donc, en fait, la famille Clinton va pouvoir continuer à s'investir dans cette Fondation.
Philippe Golub?
Je pense quand même qu'il s'agit d'une... Il faut voir, surtout aujourd'hui, voir les choses en face, d'une défaite très lourde, très grave. Pour Clinton elle-même, mais aussi pour le Parti démocrate, qui est scindé, qui n'est pas unifié, qui ne sera pas unifié derrière Clinton. Pas parce que Clinton manque de qualité, mais parce qu'il existe des fissures, des fractures au sein de ce parti que l'on a vu pendant les primaires.
Fractures idéologiques notamment.
Fractures idéologiques et politiques réelles qu'il ne faut pas masquer entre les partisans d'un renouveau d'un discours disons démocratique socialiste incarné par Bernie Sanders et avec un mouvement de jeunes derrière quand même très significatif qui s'est exprimé pour les primaires et puis le parti démocrate plus institutionnel qui quand même subit, c'est le parti démocrate institutionnel qui subit une défaite très importante là. Et il ne faut pas non plus sous-estimer surestimer, pardon, la possibilité du consensus. Le fait qu'elle, c'est rituel, c'est, je pense que c'est élégant de sa part de tendre la main à Donald Trump. Mais l'idée d'un consensus possible post cette élection qui a été d'une violence inouïe me semble être une illusion qu'il ne faut pas entretenir. Nous sommes au début d'une ère de conflictualité politique importante.
Sur l'ampleur de la défaite du Parti démocrate, Amy Green.
Il y a également une autre personne qui est concernée directement par cette défaite, c'est Barack Obama. Parce qu'il a dit très, très explicitement à plusieurs reprises que Donald Trump est singulièrement inqualifié d'être président des États-Unis. Il a dit également qu'une défaite de Clinton, ce sera une atteinte personnelle à sa personne. Donc il a déjà posé la chose. Après, il faut regarder, en fait, sur ce qui s'est passé. Il n'y avait jamais réellement l'émergence d'une génération Obama. Aujourd'hui, il appartient au président sortant de créer cette génération. Ce que je veux dire, c'est que la famille Clinton, ils avaient su fidéliser un certain nombre de jeunes élus par la levée de fonds et par le soutien politique à des moments clés. Et donc, on peut regarder aujourd'hui sur la scène politique tout un grand nombre de personnes, des sénateurs, des représentants, qui doivent quelque chose de très important et fondamental à la famille Clinton.
Obama n'a pas été en mesure d'assurer sa succession.
Il s'est fait battu pendant les midterms, donc les élections de mi-parcours, à plusieurs reprises. Il n'a jamais su faire émerger quelqu'un autre que lui-même. Ce n'est pas forcément une critique, c'est son style de faire la politique, mais aujourd'hui, ça ne peut pas être Clinton qui rassemble les troupes. Il faut plutôt que ce soit donc le président sortant pour essayer de reconstruire quelque chose de son héritage.
Anne Desine, cette défaite, c'est une défaite d'abord de la candidate, forcément, puisque c'était elle qui était en première ligne, mais c'est aussi une défaite partagée par Barack Obama.
Oui, de Barack Obama et du Parti démocrate. Alors Barack Obama, il s'est sans doute trop investi pour soutenir la candidate Clinton. Et ça peut être un problème. Il a quand même à plusieurs reprises critiqué très fortement le candidat Trump. Il y a encore 2 jours, il expliquait en ricanant, avec beaucoup de condescendance, que ses proches lui avaient confisqué son compte Twitter et que s'il fallait lui confisquer son compte Twitter pour qu'il ne fasse pas de bêtises, comment pouvait-on lui faire confiance pour le code nucléaire ? Donc ça, c'est un vrai problème. Alors la raison pour laquelle Obama s'est tellement investi, c'est que c'est tout son bilan qui est en jeu. Dans la situation actuelle, là, nous avons en fait une trifecta, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire la présidence, les 2 chambres du Congrès et les chambres et les gouverneurs au niveau des États sont globalement presque totalement entre les mains des républicains. Donc on a une majorité à Chambre de représentants, une majorité au Sénat, et dans les États, il y a 33 États qui sont dirigés totalement par des républicains, donc qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on peut rajouter une couche, comme le président Trump va pouvoir nommer un ou peut-être plusieurs juges à la Cour suprême. Ça veut dire qu'on va revenir à une majorité extrêmement conservatrice à la Cour suprême et que donc là, pendant les 30 ans qui viennent, l'Amérique redevient très conservatrice, c'est-à-dire que la Cour va pouvoir continuer, parce qu'elle a commencé à démanteler les acquis sociaux, les droits civils, déréguler le financement des élections, etc. Et je voudrais un dernier perdant pour moi, qui sont justement les contre-pouvoirs, parce que là, on a tous les leviers du pouvoir qui sont entre les mains des républicains.
Alors justement, on va aller dans un instant sur la question des contre-pouvoirs, mais dans la mesure donc, où, en tout cas arithmétiquement, ce sont les conservateurs qui détiennent, non pas un pouvoir absolu, mais enfin en tout cas l'essentiel des leviers du pouvoir, Philippe Goulub, est-ce qu'on peut dire que les perdants, au-delà des démocrates, ça pourrait être les progressistes?
Oui, d'abord... Sur le mot conservateur, ce ne sont pas les conservateurs, en tout cas pas des conservateurs classiques, ce ne sont pas des Burkeans, dans le sens du conservatisme classique. Nous avons affaire au sein du Parti républicain aujourd'hui, au Congrès, dans les 2 chambres du Congrès, surtout dans la Chambre des représentants, à des idéologues souvent extrémistes, issus des Tea Parties, qui ne sont pas stricto sensu des conservateurs. Ils sont plutôt des contre-révolutionnaires ou des gens qui se pensent révolutionnaires tout en étant des contre-révolutionnaires qui veulent effectivement démanteler tout ce qui restait encore. Il n'est pas grand-chose d'ailleurs de nous dire, des institutions de nous dire. Il faut faire attention, le système politique américain s'est tellement départi à droite au cours des 20 dernières années, 25 dernières années, qu'on utilise des mots comme modérés et conservateurs qui aujourd'hui n'ont plus les mêmes sens qu'ils avaient auparavant. Effectivement, une certaine forme de progressisme a été atteint et ceci du fait, me semble-t-il, des difficultés qu'a rencontré Barack Obama, difficultés il n'a pas su ni pu, ou pu ni su, je ne sais pas exactement quelle a été la part de la volonté, de manque de volonté et des conditions objectives qui ont freiné ces possibilités d'action, de transformer la situation économique et sociale des États-Unis après la crise de 2008-2009 en véritable reprise économique qui aurait bénéficié à des couches plus larges de la population. Il a arrêté une dépression. Il a réussi à arrêter une grande dépression. Et il faut lui en savoir gré. Mais il n'a pas su ni pu transformer la donne en quelque chose qui aurait redistribué les gains de cette stabilisation aux couches sociales vulnérabilisées précisément par cette crise. Et il y a une angoisse de fond dans la population qui s'est exprimée. Ce vote représente, au fond, une angoisse grandissante, profonde, et la colère qui sort de cette angoisse d'une peur du déclassement, d'une peur d'une paupérisation, n'est-ce pas, de couches très larges de la population qui, aujourd'hui, demande un État fort, demande une certaine forme d'autoritarisme pour régler ce problème à la place d'un gouvernement démocratique et libéral classique.
Anne-Désine ?
Oui, en fait, la croissance est revenue et je suis d'accord qu'Obama... Oui, mais la création d'emplois, ce sont des mauvais emplois. Voilà. Et donc, toute cette classe se rend bien compte qu'elle ne profite pas de la croissance, du redressement. Et ce qui a été intéressant dans cette campagne, je disais que j'avais réussi à trouver quelques points positifs, c'est qu'en fait, tant Bernie Sanders que Trump ont mis la main sur le problème, c'est-à-dire la finance. Et Obama a commis la même erreur que Bill Clinton. Bill Clinton, il n'a pas posé son veto lorsque les républicains ont voté la loi qui a abrogé la loi Glass-Steagall, qui séparait les banques d'investissement des banques commerciales. Donc ça a été le début de la dérégulation, le début de la montée en puissance de la finance. Et Obama, qui avait quand même fait campagne sur le changement et sur la fin du Washington as usual, donc ce pouvoir des lobbies, le financement des élections, etc., il a nommé à la tête du département du Trésor quelqu'un de Wall Street. Et donc, pendant la campagne, et Bernie Sanders et Trump ont répété que Clinton serait à la botte de Wall Street, et ça a bien pris. Ils se sont dit, ce n'est pas elle, quelles que soient ses bonnes intentions, quelles que soient ce qu'elle a fait dans le passé pour les femmes, pour les enfants, qui pourra effectivement changer la donne et mettre fin à cette mainmise des banques et de la finance sur le système politique et économique.
Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que dans le lot des perdants de cette présidentielle américaine, il y a justement le monde de la finance, les marchés financiers, Wall Street, Amy Green ?
Aujourd'hui, les marchés, je ne suis pas experte en économie ni en finance.
Ils ont d'abord baissé, mais puis finalement, ils sont plutôt rétablis.
Ils ont remonté un petit peu, donc oui, on a vu que la réaction n'était pas si forte que ça, alors qu'il y avait effectivement des chutes tout en début de la journée. Mais justement, au-delà de la question de la finance, de l'économie qui est absolument centrale, il s'ajoute la question de chercher des explications sur pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui. Certes, il y a le sentiment que Washington est verrouillé par des intérêts spéciaux, par les lobbies, etc. Mais il y a aussi la question du changement démographique, social, très important, qui s'est déjà pris, qui est, de toute façon, quoi qu'on veut, l'avenir des États-Unis. Et il y a aussi là, Donald Trump a su expliquer, mettre la culpabilité pour ce monde en changement, l'attribuer en tout cas à des populations, à des immigrés, à une religion tout entière, à dire, bon, le problème, c'est que vous êtes délaissés aujourd'hui parce que ceci, parce que cela, parce que l'émergence des autres, parce que la mondialisation fait que vous êtes totalement exclus, que vous êtes oubliés. Donc, n'oublions pas qu'on fait référence aussi à une partie de la population, notamment masculine et blanche, qui a bénéficié presque intégralement du système et qui dominait largement le système et qui, depuis 25 ans, n'est plus tout à fait dominant. Et donc, Alors, je pense qu'il y a aussi une part d'explication.
Justement, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces derniers jours, c'est-à-dire la population masculine et blanche comme ressort important et du vote et de la victoire de Donald Trump. Est-ce que ça veut dire que, par défaut, ceux qui ne sont ni des hommes ni des blancs sont les perdants de cette élection? Est-ce que ça va être plus compliqué pour les femmes? Est-ce que ça va être plus compliqué pour les non-blancs aujourd'hui de vivre aux États-Unis? Est-ce qu'en tout cas, il y a une forme de crainte de la part de ces populations-là, Amy Green?
Oui. Il ne faut pas oublier d'abord que à peu près plus que la moitié des femmes blanches ont voté pour Donald Trump. Donc il y a des explications qui dépassent le genre. Peut-être qu'il y a une question de genre qui est liée également à ce choix-là qui a été fait. Mais oui, il y a une crainte par rapport à ces populations-là parce que Donald Trump a fait sa campagne contre les droits des LGBT, contre contre l'avortement des droits reproductifs. Il a fait des propos même de se vanter de l'agression sexuelle personnellement émise vis-à-vis des femmes. Et donc, en fait, il a basé sa campagne, enfin, bon, ça c'est sorti, il n'a pas voulu, mais il a basé sa campagne sur des propos assez durs, assez violents, voire racistes, vis-à-vis des Mexicains, vis-à-vis des musulmans, etc. Donc, il y a toute une partie de l'Amérique qui craint aujourd'hui qu'ils vont voir reculer les droits qu'ils ont acquis depuis ces dernières décennies.
Est-ce que vous avez l'impression, Philippe Golub, que l'Amérique a déjà été autant divisée qu'elle semble l'être aujourd'hui à la fin de cette campagne extrêmement dure, disons, entre les deux candidats?
Il y a des grands mouvements de division, et évidemment, c'est pas tout à fait comparable, bien évidemment, dans sa violence, la guerre civile, hein, le sectionnalisme américain nord-sud, l'esclavage, il y a eu la violence des campagnes électorales de 1960 et de 1964 et de 1968. Il y a eu des grandes divisions de la politique américaine. La différence, me semble-t-il, cette fois-ci, c'est que, pour revenir sur ce que disait Amy Green, c'est qu'il y a le sentiment de danger, de menace pour les minorités visibles, n'est-ce pas, les Afro-Américains, les Hispaniques américains, et maintenant, la portion des femmes qui n'ont pas voté Trump, c'est que la campagne Trump a libéré la violence politique dans la société. Il a légitimé une parole politique par une parole politique légitimant la violence, légitimant le racisme, légitimant le sexisme, légitimant implicitement le viol, n'est-ce pas, dans le cas de ses affaires personnelles. Il a libéré au sein de ses supporters la possibilité de s'engager dans la violence collective et dans la violence individuelle. C'est-à-dire, il est devenu possible d'imaginer, il ne faut pas oublier quand même qu'il a dit à un certain moment qu'il serait potentiellement légitime, il l'a dit implicitement, mais c'est clair, légitime que son opposante Hillary Clinton disparaisse sous des balles, n'est-ce pas? Alors, même s'il n'en avait pas l'intention, le fait même d'avoir articulé de cette manière ses prises de position crée une dynamique dans la société qui est une dynamique de danger, de sentiment de danger, de violence et de potentialité de violence. On est là devant une situation dans un avenir pas trop lointain où soit il pourra recentrer sa propre base, soit il y aura, et c'est ce que je pense, mon hypothèse la plus probable, est qu'il y aura de plus en plus de conflits, de violences politiques dans la société américaine.
Est-ce que vous partagez le pessimisme de Philippe Golub, Anne Desineux?
Oui, je suis entièrement d'accord que sa campagne a réveillé tous les vieux démons des États-Unis, et ce qui était tabou n'est plus tabou. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une acceptabilité d'un niveau de violence, de racisme, qui n'était pas le cas il y a un an. Alors, à la limite, peut-être y aura-t-il moins de violence dans la mesure où il a gagné. Moi, j'avais très très peur, parce que Trump, c'est un mauvais perdant. Il avait d'ailleurs annoncé qu'il ne concéderait pas. Et ma crainte, c'était qu'il appelle à la violence en disant « l'élection est truquée, the election is rigged », etc. Donc là, il a gagné, peut-être il sera un meilleur vainqueur, mais tous ces gens qui se sont fait dire « si vous avez un procès, je paierai vos frais d'avocat », exactement. Maintenant, ils ont entendu le message qui n'était peut-être pas tout à fait ce que voulait faire passer Donald Trump, mais le message qu'il était acceptable d'être raciste. Ils ont essayé de devenir politiquement correct, et puis ce monsieur leur a dit « mais attendez, politiquement correct, c'est pas la peine, vous pouvez dire et faire ce que vous voulez ».
Alors, ce qui va sans doute être déterminant, ça va être la capacité de Donald Trump à s'entourer de gens peut-être un peu plus raisonnables qu'il ne l'est, et puis aussi de jouer avec des contre-pouvoirs. Alors certes, vous l'avez dit, le Congrès est à majorité républicaine, mais est-ce que Amy Green, on peut considérer que malgré tout, malgré cette majorité républicaine, le Congrès peut quand même jouer un rôle de contre-pouvoir? Parce qu'on a bien vu que dans le camp républicain, il y avait de fortes divisions, qu'ils n'étaient pas nombreux, en tout cas ceux qui siégeaient à Washington, à soutenir le candidat Donald Trump, que finalement, les congressistes ne vont pas tenter de limiter, disons, les excès de Donald Trump. On ne sait jamais ce qui va se passer, mais enfin, en tout cas, est-ce qu'on peut l'imaginer?
La question se pose de savoir si ceux qui ont été peut-être opposés à Donald Trump sauront refuser des propositions de postes de ministre, etc. Ça serait intéressant à voir. Je le dis parce qu'on a vu aujourd'hui l'exercice démocratique, le rituel se produire, et notamment plus récemment, il y a quelques heures, avec le discours de Paul Ryan, qui a félicité Donald Trump d'une réussite politique inouïe et inédite dans l'histoire, et donc qui a appelé à un travail collectif et d'une collaboration entre lui et donc le parti.
Peut-être donc, faut-il espérer que ceux qui se sont opposés à sa candidature entrent au gouvernement, justement, ça sera une façon peut-être de le confiner un petit peu, enfin en tout cas de le contrôler, non?
Ils ont un intérêt de toute façon pour le Parti républicain à trouver une forme de synergie, parce que de toute façon, dans 2 ans, on arrive les élections de mi-parcours. Et n'oublions pas que Hillary Clinton a gagné la vote populaire, donc on peut également voir la revanche de cette Amérique-là qui décide de renvoyer un grand nombre de représentants pour donner ce contre-pouvoir dont parlait Anne tout à l'heure. Mais en effet, la question se pose avec qui est-ce que Donald Trump va s'entourer. Aujourd'hui, il a nommé le chef de son équipe de transition, qui est gouverneur de New Jersey, Chris Christie, qui a été trouvé...
Qui est inculpé dans une affaire de pont.
Exactement, qui a échappé de ça, de prison, il y a quelques jours. Rudy Giuliani y est aussi. Et donc, à savoir si Donald Trump va savoir non seulement solliciter les sages autour de lui dans le Parti républicain, mais il va savoir les écouter, parce qu'il les a déjà sollicités pendant la campagne, quitte à écarter totalement les conseils.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Qui sort perdant de la présidentielle américaine? C'est la discussion que nous avons ce soir en compagnie d'Amy Green, de Philippe Golub et d'Anne Desine. Pour continuer sur cette question des contre-pouvoirs, justement, quels vont être désormais les contre-pouvoirs au pouvoir exercé par Donald Trump? Est-ce que ça peut être les républicains? Est-ce que ça peut être ce fameux quatrième pouvoir qui s'est quand même bien planté? On en fait partie. Hein. La presse, bien entendu, qui a fait campagne pour Hillary Clinton et qui d'ailleurs est sans doute qui explique aussi peut-être une forme de rejet qu'on constate des élites. Anne Desine.
Les médias sont responsables de la montée de Trump. À partir du moment où ils ont vu que ça faisait monter les audiences, ils lui ont offert des temps d'antenne gratuits, qui représentent, selon les calculs que j'ai lus, 800 heures d'antenne gratuits et plusieurs milliards de dollars. Quand on sait le prix d'un spot de 30 secondes, 800 heures de campagne. Donc voilà, c'est pour les médias. Les contre-pouvoirs, je pense qu'il faut distinguer entre ce qui est la politique intérieure et ce qui est la politique étrangère. En politique intérieure, le président américain, contrairement à ce que pensent certains, n'est pas tout puissant et il a besoin du Congrès pour voter le budget et pour voter des textes. Ça veut dire que, par exemple, s'il voulait construire le mur, il faudrait que le Congrès soit d'accord, que le Congrès vote un budget de construction du mur. Et on peut penser que Paul Ryan, même si le speaker de la Chambre, même s'il a félicité Donald Trump, à l'intelligence et la survie politique de penser que c'est sans doute pas le premier projet sur lequel le Congrès doit se prononcer. Peut-être un plan de relance des infrastructures serait une meilleure idée.
Donc ça se passe pas forcément comme en France, quand un président est élu et que derrière il y a des législatives qui confortent et qui lui donnent une vraie majorité, les parlementaires ne sont pas tous au garde-à-vous pour voter les lois que décide le président américain.
Pas du tout, il n'y a aucune discipline de parti. Alors, rappelons-nous, le président Obama, il est allé chercher les voix avec les dents pratiquement pour faire adopter sa loi sur la santé. Alors, est-ce que Donald Trump va être rancunier, par exemple, contre le speaker, ou est-ce qu'il va accepter de travailler avec Paul Ryan? C'est une des questions. S'il accepte de travailler avec lui, il peut y avoir assez rapidement un vote de grands travaux, d'infrastructures qui seraient en tout état de cause bons pour les États-Unis. On peut même penser que quelques démocrates, là, peut-être je suis dans l'idéalisme total, le voterait, parce que lorsqu'on est le représentant démocrate d'une circonscription bleue, de col bleu, c'est quand même difficile d'expliquer à vos électeurs que vous votez contre quelque chose qui va créer des emplois et qui devrait relancer l'économie. En politique étrangère, il n'a pas tellement, sauf pour l'approbation des traités et de certaines nominations, il n'a pas vraiment besoin du Congrès, parce que le président américain, ce n'était pas très clair dans la Constitution, mais enfin maintenant, grâce au fait qu'il est commandant en chef, il peut faire pas mal de choses et donc ça risque de poser des problèmes. Est-ce qu'il peut décider tout seul de se rapprocher de Poutine? Est-ce qu'il peut décider pratiquement tout seul de mettre fin à l'accord avec l'Iran sur le nucléaire? Ça, c'est...
Alors on va aller très vite justement sur cette question des relations internationales, mais pour rester encore un tout petit instant sur les contre-pouvoirs à l'intérieur, Philippe Golub, est-ce que vous avez confiance finalement aujourd'hui en la solidité de la démocratie américaine et des institutions sur lesquelles elle est adossée pour vous dire que Donald Trump dans l'exercice du pouvoir sera forcément un Donald Trump différent que celui qu'on a vu pendant la campagne et qu'il devra forcément composer et faire des concessions, faire des compromis?
Non, je ne suis pas. Je ne pense pas que. Il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est le problème de la concentration des pouvoirs exclusifs au sein de ce qu'on appelle le Parti républicain, les deux chambres du Congrès, la présidence et bientôt la Cour suprême. Évidemment, avec des différences idéologiques et politiques qui s'expriment au sein du sang ultra-conservateur. Des différences idéologiques qui sont des différences idéologiques qui pour un observateur européen seraient des différenciations de gris foncé et de noir au plan du spectre idéologique, n'est-ce pas? Donc contre-pouvoir effectif et réel, non contre-pouvoir dans le sens que il y a des individus au sein du Parti républicain qui ne voudront pas que Donald Trump accumule trop de pouvoir personnel. N'est-ce pas? C'est vrai de tous les candidats lors de l'élection, c'est vrai d'autres membres du Parti républicain, tels que John McCain, qui n'a pas dû apprécier, le sénateur John McCain, qu'on le traite de minable plutôt que de héros de guerre, n'est-ce pas? Donc il y a toute une série d'animosités personnelles qui vont jouer, mais qui ne constituent pas des contre-pouvoirs institutionnels. Pour ce qui est du reste, la question se pose, c'est une question classique des sciences sociales, bien évidemment, de savoir si ce sont les institutions qui façonnent l'individu ou l'individu qui peut faire bouger les structures institutionnelles de fond. Et évidemment, généralement, ce sont les structures qui façonnent les individus, sauf dans des périodes, des moments historiques particulières, très spécifiques. Est-ce que nous sommes dans ce moment historique particulier où un individu qui ne semble pas savoir ce qu'il devrait savoir, qui ne semble pas savoir ce qu'il veut, qui ne semble pas savoir s'il a un véritable programme ou pas. Il a annoncé aujourd'hui un grand programme d'infrastructure dont vous avez parlé, et en même temps, il annonce qu'il va baisser les impôts radicalement. Comment va-t-il financer ces programmes? Donc, il y a une question qui se pose de savoir si cet individu qui ne sait pas ce qu'il veut, pour l'instant, pourra en réalité changer des institutions qui ont une logique propre. Les institutions ont une logique propre, pas les parlementaires, les institutions de la République.
Est-ce qu'il s'est engagé d'ailleurs sur cette question de changement institutionnel, Amy Green?
Non, pas spécialement. C'est vrai que son arrivée, sa popularité a été expliquée par un sentiment, une volonté de casser le système, mais il ne s'est pas forcément engagé à tout casser lui-même. Parce que justement, comme disait Philippe Golub, il ne sait pas très bien ce qu'il veut, il sait. On a l'impression aujourd'hui qu'il ne sait même pas comment faire une politique publique, quel est le processus d'acheminement entre l'idée et la réussite, la mise en place. Donc il y a un long trajet à faire et c'est très compliqué et très technique. Et donc on n'a pas la confiance aujourd'hui qu'il sait faire. En revanche, pas forcément pour parler trop des affaires internationales à ce stade, mais en tout cas pour revenir à quelque chose que disait Anne tout à l'heure, c'est qu'il s'est engagé effectivement dès le jour de l'investiture à défaire l'accord sur le nucléaire. Et le climat, tout à fait. Et donc son équipe est, paraît-il, en train de travailler sur des ordres exécutifs assignés dès l'investiture, justement pour défaire un certain nombre de politiques qui ont été menées et actées par le président Obama.
Alors justement, ça va être très intéressant de voir Donald Trump à l'œuvre une fois qu'il aura été investi, hein, c'est en janvier prochain, lors de son premier grand rendez-vous international. Je ne sais pas exactement d'ailleurs lequel ce sera, mais qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce que raconte cette victoire de Trump en termes de relations internationales, Anne-Désine? Est-ce qu'on est vraiment dans une bascule aujourd'hui où on pourrait voir la confirmation de la fin du multilatéralisme ou peut-être ce que nous disait tout à l'heure juste avant l'émission, la fin d'une forme de libéralisme politique, mais pas seulement à l'échelle américaine d'ailleurs, à l'échelle mondiale?
Alors, si l'on commence par les accords commerciaux, il est très clair qu'il est opposé au libre-échange, alors que c'est un credo du Parti républicain. Mais ce n'est pas aussi simple, parce que non seulement ce serait très difficile de revenir en arrière sur l'accord ALENA, l'accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique, mais surtout l'économie mondiale, l'économie actuelle, est totalement interdépendante. C'est-à-dire que s'il commence à se fâcher avec la Chine, ce sont les Chinois qui détiennent une grande quantité de bons du Trésor. Donc quelque part, il va y avoir, j'espère, une sorte de principe de réalité qui va l'amener à infléchir ce qu'il avait promis. Cela étant, il y a deux accords qui sont très très en danger et qui sans doute ne verront pas le jour. C'est le partenariat transpacifique. Alors qui lui avait quand même des avantages, et à l'origine, il avait été prévu avec tous les pays d'Asie, sauf la Chine. Donc c'était un moyen de contrebalancer l'influence de la Chine et d'isoler la Chine. Alors, mais peut-être qu'à un moment, quelqu'un lui expliquera et qu'il reviendra en partie sur ceci. Et pour nous, pour l'Europe, c'est le partenariat transatlantique, le TTIP, ce qui, pour moi, là je donne mon avis, est plutôt une bonne chose, parce qu'on se rendait bien compte qu'il y avait un entraînement de la Commission en Europe, des élites économiques vers toujours plus de libre-échange. Et là, ce n'est pas uniquement du libre-échange, c'est aussi le libre investissement. Ce sont une harmonisation des normes, et souvent ça se fait par le bas, c'est l'agriculture, les normes sanitaires, etc. Et puis surtout cette clause d'arbitrage qui mettait les réglementations des États entre les mains des multinationales qui disaient « mais attendez, moi je perds de l'argent, donc il n'est pas question que tel État prenne ce type de mesures ». Donc moi, je me réjouis, il est possible qu'on remette le travail sur le tapis d'ici 4-5 ans, mais sur de nouvelles bases.
C'est le libéralisme au sens large qui sort perdant de cette élection, Philippe Golub.
Oui, je pense que oui, au niveau interne, comme au niveau domestique, comme au niveau international, oui. Nous sommes dans une phase, et c'est bien ce que vous venez de dire quelque part, dans une phase de renationalisation de la politique mondiale. Les États-Unis ne sont que... Trump n'est que l'exemple le plus récent et le plus grand, le plus significatif, le plus significatif de ce phénomène de renationalisation qu'on a vu en Grande-Bretagne avec le Brexit, qu'on voit par ailleurs dans la réémergence ou l'émergence d'États autoritaires en Europe orientale, en Méditerranée, la Turquie, et bien sûr, évidemment, avec Poutine en Russie et la Chine de Xi Jinping. Donc, dans ce sens-là, la situation peut être comparée à celle de la fin du 19e siècle, dans l'effondrement du système libéral international de la fin du 19e, qui était structuré autour du libre-échange colonial, bien sûr, mais du libre-échange quand même, du libre-échange forcé colonial. Mais il y avait un système international libéral, sous domination franco-britannique essentiellement, ou plutôt britannico-français, qui s'est effondré, qui s'est effrité, puis à la fin s'est effondré du fait de l'émergence, justement, d'États nationaux autoritaire, l'Allemagne en particulier, l'État autocratique, autoritaire.
Et vous parleriez de fin de cycle à ce sujet,
fin
justement
de cycle, fin de cycle, effectivement, là, d'un cycle de mondialisation et d'intégration mondiale, qui ne donne pas au peuple, aux gens dans les différents pays du monde, le sentiment de sécurité nécessaire, de protection nécessaire, qui leur permettrait d'accepter les énormes changements, les changements dramatiques de conditions de vie qui sont générés par les changements technologiques, la mondialisation des flux, etc. Il y a une demande de protection, et cette demande de protection, c'est la thèse de Polanyi dans La Grande Transformation, n'est-ce pas ? C'est une demande de protection très forte de la part des différentes populations, avec des idiomes nationaux particuliers, français dans le cas de Le Pen, Trump dans le cas des États-Unis, qui se manifestent par la fin du libéralisme, ou le début plutôt, excusez-moi, le début de la fin du libéralisme.
Et Myrine ?
Oui, on voit, en effet, je suis entièrement d'accord avec Philippe, mais pour ajouter peut-être un autre point plus sur le côté domestique, on peut expliquer effectivement, on voit cette peur dont on a parlé tout à l'heure, puisque ça s'applique à la fois à l'ordre international comme à l'ordre domestique, et le changement de gravité, ça bascule assez rapidement vers la Chine et l'Asie en général, vers d'autres pôles, et dont les États-Unis ne détiennent plus la monopole du pouvoir et de la création du règle du jeu, finalement. Et certains Américains, en fait, ils votent pour Trump, mais parce que le lien n'a pas été fait. Et donc, quelque part, il y avait un contrat qui n'a pas été tenu par la classe politique élite vis-à-vis de ces populations-là. Et aujourd'hui, on voit une contestation même du système des élites, à la fois on voit en Angleterre, peut-être en France on le verra, mais en tout cas on le voit aujourd'hui aux États-Unis, qu'au-delà de la question de est-ce que c'est des hommes, est-ce que s'ils sont des blancs, il y a une question qui vive très pleinement dans le débat politique à droite comme à gauche, les personnes qui sont censées me représenter ne comprennent pas les enjeux de ma vie et n'améliorent pas la condition de ma vie et n'ont pas les explications suffisantes et sont totalement déconnectées avec la réalité des choses. Et ça, aujourd'hui, on a vu un rejet très fort de cela aux États-Unis.
Et donc, est-ce qu'on pourrait dire que, alors que Donald Trump a fait campagne en disant, voilà, on va redonner sa grandeur à l'Amérique, que finalement, le fait qu'il soit élu, c'est plutôt le signe que l'Amérique n'est plus aussi grande qu'elle l'était. Et voilà, que ça serait une forme de preuve peut-être supplémentaire de la perte de puissance américaine.
Au moins de la perception de cette perte de puissance, parce qu'il est clair, on se rappelle le livre de Farid Zakaria. Zakaria dit que ce n'est pas que les États-Unis ne sont plus puissants, c'est qu'il y a un certain nombre de nouvelles puissantes qui sont en train de monter et il n'y a plus d'hyperpuissance ou de monopole du pouvoir par les États-Unis. Mais moi, ce que je vois, c'est aussi le contraste, le paradoxe, parce que ceux qui ont voté pour Trump ont voté pour lui en pensant qu'il va améliorer leur vie d'une façon ou d'une autre. On ne sait pas très bien ce qu'il va pouvoir faire. Mais moi, je vois 20 millions de perdants du jour au lendemain si ce qu'on appelle Obamacare, donc la loi santé, est abrogée. Or, la Chambre des représentants a déjà voté de mémoire 30 ou 32 fois pour abroger cette loi santé. Si le Sénat suit le mouvement, ce n'est évidemment pas M. Trump qui va poser son veto. Donc, on a l'abrogation de cette loi qui coûtait un capital politique fantastique au président Obama, mais surtout qui était en train de se mettre en place et qui assurer 20 millions de personnes qui avant ne trouvaient pas à s'assurer parce qu'ils avaient ce qu'on appelle le pre-existing condition, donc une maladie, et les compagnies d'assurance disaient « Ah ben vous êtes malade, donc on ne vous assure pas ». Alors ça risque d'être les grands perdants. Est-ce que le président Trump va se rendre compte que c'est pas si facile de trouver un plan secteur privé, comme il le disait dans ses discours, susceptible de remplacer Obamacare ? Ça, c'est une grande question.
Alors, on a énormément suivi, évidemment, cette campagne électorale américaine, en particulier en France, hein, avec des éditions spéciales. En veux-tu, voilà, ce qui est assez légitime, sans doute. Peut-être qu'il y en avait un tout petit peu trop. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns et les autres. Bref. Mais en tout cas, on avait presque l'impression aussi qu'on décidait de notre avenir à travers cette présidentielle américaine. Est-ce que nous, alors nous, Français, nous, Européens, Philippe Golub, sortons perdants de cette élection, ou bien au contraire, peut-être qu'à travers ce repli qui pourrait être confirmé par l'Amérique de Trump, l'Europe va gagner une forme de nouvelle émancipation à l'égard de son grand voisin américain ?
J'hésite à vous répondre, car vous avez pensé que je suis pessimiste. En général, je suis un pessimiste. Mais je pense que c'est tout à fait le contraire. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, est dans une situation de fragmentation à la fois politique, économique et idéologique de plus en plus forte, que la gestion de la situation de l'euro, de la crise de l'euro qui a suivi la crise financière américaine de 2008-2009, que la gestion européenne a été proprement désastreuse. Et il faut aller voir. Justement, les observateurs ne sont pas allés voir ce qui se passait dans les villes et les villages, les zones rurales, les zones périurbaines aux États-Unis, pour identifier la souffrance des gens. Il y a des endroits en France, il y a toute la Grèce, il y a le Portugal, il y a l'Italie du Sud, il y a l'Espagne, et une souffrance sociale très grande, et il y a une montée grandissante de colère similaire, analogue à celle qui vient de s'exprimer aux États-Unis, et la Commission européenne ne prend pas les mesures, ou ne peut pas prendre les mesures nécessaires, les deux, ne peut pas et ne veut pas prendre les mesures nécessaires. L'Allemagne, puissance hégémonique en Europe aujourd'hui, ne veut pas changer la donne. L'Europe aujourd'hui est dans une situation qui est une situation, de ce point de vue-là, lamentable.
Donc l'Europe doit tenir compte de ce résultat de l'élection présidentielle américaine, pas seulement parce que ça modifie les relations, mais parce que c'est aussi une forme de signal d'alarme, Amy Green.
Oui, mais il y a un point très essentiel qu'on n'a pas évoqué, c'est l'OTAN. Et Donald Trump a eu des visions assez pessimistes vis-à-vis de l'utilité de l'OTAN, vis-à-vis de la contribution des partenaires européens. Donc, reste à voir quelle sera la position officielle de l'administration de Donald Trump sur l'OTAN, sur les investissements que les États-Unis peuvent y apporter et avec quelle garantie de ses partenaires européens. Il a remis en question la nécessité pour cette alliance, son utilité, sa raison d'être dans ce nouveau siècle. Donc à voir aujourd'hui, ou plutôt pas aujourd'hui, mais dès le 20 janvier, comment il va s'y prendre.
Anne Desine, pour conclure.
Oui, c'est une grande question. Il a surfé sur cette vague que beaucoup d'Américains considèrent très très forte, que les Européens ne dépensent pas suffisamment sur leur défense. Alors si c'est simplement exiger des Européens qu'ils contribuent un petit peu plus, ce n'est pas une mauvaise idée. Si c'est remettre en cause les mécanismes de solidarité au sein de l'OTAN et l'article 5, ça c'est très très dangereux. Et il faut pas totalement éliminer cette hypothèse dans la mesure où jusqu'ici, M. Trump semble très proche de M. Poutine. Oui. Et donc, voilà. Alors, que va-t-il advenir, Ukraine, Pays-Baltes, etc.
On voit à quel point les questions qui sont posées par l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis sont nombreuses et vont sans doute alimenter encore pour longtemps quelques prochaines émissions. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à celle-ci.
Merci.
Amy Green, Philippe Golub et Anne Desine, les références bibliographiques des uns et des autres, c'est sur notre site franceculture.fr, la page du Grand Amour, page depuis laquelle vous pouvez réécouter l'émission aussi longtemps que vous le souhaitez. Si vous avez envie de la télécharger, il faut le faire d'ici un an. Ça laisse quand même un petit peu de temps. Vous pouvez également la commenter sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Fanny Richer, Mélanie Chalandon, Mathilde Barbier, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Jean-Christophe Francis avec à la prise de son Pascal Baudin. Demain, nous poserons la question suivante. Démocratie turque, fin de cycle. Ce sera... question. Voilà, fin de cycle, on en a parlé ce soir. On voit que c'est quand même un thème qui revient énormément dans l'actualité internationale.